BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans Tech & Co Business. Nous sommes ensemble pendant une heure sur BFM Business. On va beaucoup parler cybersécurité aujourd'hui, dans un instant, avec Philippe Devost, hein, qui est un consultant que vous connaissez, et qui justement s'inquiète de tout ce qui est la fuite de nos credentials. Vous savez, cette association identifiant mots de passe, et notamment, tiens, récemment avec la fuite des données sur la NTS. On va en reparler avec lui. On reparlera aussi de cybersécurité dans la deuxième partie de l'émission, avec tous nos débriefeurs. Nous parlerons, bien là encore, de la fuite de données, des nouvelles forme d'hameçonnage. On verra aussi pour l'NTS, ben, ce jeune homme là qui a été arrêté, ce jeune Bastier, ben, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, d'un jeune hacker comme lui. Voilà, ce sera l'occasion d'en parler avec nos débriefeurs. Et puis entre les deux, tiens, on retrouvera Vincent Champin et Gilles Babinet, vous les connaissez bien, le rapport sur la productivité de l'Observatoire du long terme, le grand décrochage. Et justement, comment, pourquoi et comment surtout ne pas décrocher, on découvrira ça avec eux. Il y a pas mal de chiffres dans ce rapport, je vous le conseille. Rapport publié par l'Observatoire du long terme. Allez, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business, Tech & Co Business, c'est parti.
Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, on va parler cybersécurité avec notre premier invité que vous connaissez sans doute si vous suivez Tech & Co, les débriefs chaque soir avec François Sorel. Philippe Devost, bonjour Philippe.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, fondateur de Phileos, conférencier, auteur, expert en cybersécurité. D'ailleurs, c'est une nouvelle activité, c'est Phileos Security and Event Services.
Absolument.
Une entité dédiée à la cybersécurité. On se voit souvent pour débattre de l'actualité en général, mais on va s'attarder sur la partie cybersécurité, parce que ces dernières heures, il se passe toujours quelque chose en cybersécurité. Mais récemment, c'était la fuite de données de l'ANTS, hein, aujourd'hui France Titre. C'est-à-dire, ces fuites de données concernent nos données de permis de conduire, nos données de carte d'identité, nos données de passeport. C'est quand même important. Alors, même s'il y a du legacy, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe derrière tout ça. Et puis, il y a quelques mois, c'était un post LinkedIn, hein, que tu avais posté, Philippe, en disant, voilà, on a 3 millions ce qu'on appelle les credentials, hein, les identifiants, les mots de passe qui ont fuité. Et là, tu disais, il y a peut-être deux, trois analyses à faire à partir de ça.
Absolument.
Et démarrons par ça, par les credentials, puis on reviendra sur la fuite à NTS après.
Alors, les credentials, c'est des couples identifiants mots de passe. Hein, c'est ce que vous utilisez sur votre ordinateur pour sécuriser vos accès. La vie des Français a été très largement dématérialisée et encouragée d'ailleurs par l'État. C'est normal, ça permet de simplifier des choses. Mm-hmm. Pour ma vieille maman, que je salue au passage. Mais globalement, on est resté à l'identifiant mot de passe et pour certains mots de passe, à des mots de passe super anciens. Et il se trouve que on a ensuite progressivement, les éditeurs de navigateurs Internet et les éditeurs de systèmes d'exploitation ont progressivement suggéré aux gens de créer des mots de passe un peu plus longs, donc plus difficiles à mémoriser, mais
ou
plus
proposer
difficiles à craquer,
des mots de passe robustes, parfois.
Ou bien voilà, carrément proposer. Aujourd'hui, en moyenne, on a dans son... Alors du coup, les éditeurs ont proposé un portefeuille dans lequel on pouvait stocker ces mots de passe. Aujourd'hui, en moyenne, les Français ont entre une cinquantaine de mots de passe qui chacun font 20 caractères, donc sont très durs à mémoriser. Et tout ça est sécurisé, soit dans le navigateur, soit dans un gestionnaire. Et il se trouve que c'est pas si bien sécurisé que ça, puisque... Oui. C'est à travers très souvent des logiciels malveillants que sont observés les mots de passe qui passent et qui permet à ce qu'on appelle des infostealers de se procurer des données d'accès sur le dark web et ensuite de tenter des usurpations d'identité quand on combine ces données d'accès avec les données d'identité.
En fait, c'est ça. On récupère. Souvent, on nous dit, tiens, vous êtes client, là, ben, Bouygues Télécom, il y a encore quelques heures, vos données, attention à vos données, donc on change le mot de passe. Mais en fait, tout ça, les pirates, entre ce qu'ils ont piqué, enfin, ce qui a réussi à fuiter de Bouygues Télécom, là, en l'occurrence, ce qui a pu fuiter de la NTS, ce qui a pu fuiter d'autres aussi, ils font un peu une compilation de tout ça, ils font un peu tourner d'IA, et finalement, ils arrivent à déceler un peu plus.
Alors, attention, les failles de sécurité sont de nature parfois très différentes. Dans le cas particulier de la NTS, je ne crois pas que ça a été au départ une fuite d'identifiant et de mot de passe, même s'il y avait probablement un compte qui a été un petit peu compromis. Mais en l'occurrence, le mécanisme utilisé pour extraire des données de la NTS était complètement différent. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore, dans certaines grandes entreprises et dans tous ces services de l'État qui sont là pour protéger les Français et protéger leur identité. Avant de s'appeler France Titres, la NTS, c'était l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ouais. Dans ces services-là, on n'est pas encore passé aux mécanismes aujourd'hui qui sont les plus robustes, qui sont soit l'authentification à deux facteurs, avec le numéro de téléphone mobile, soit carrément les passkeys, c'est-à-dire des clés d'accès utilisées une seule fois, et qui permettent d'éviter la fuite de ces données.
Mais pourquoi ? Parce qu'on a un legacy qui est trop important, voilà, on est sur des systèmes un peu anciens, parce qu'on peut imaginer ça aussi.
Pour moi, il y a deux sujets. Il y a un sujet de dette technique. L'État est en dette technique sur la sécurité depuis un très longtemps. On y reviendra sur la NTS. La faille qui a été exploitée avait été signalée il y a plusieurs années déjà. Elle avait été relevée, l'alerte avait été redonnée par un rapport de la Cour des comptes du mois de mars.
Oui. Là, il y a une actualité d'ailleurs récente. Je crois que Sébastien Lecornu dit qu'il allait y avoir un peu de budget dégagé.
Le gouvernement annonce un budget, mais ça ouvre, ça me conduit à la deuxième question, qui est celle de l'agilité. Ça fait des années qu'on sait que les mots de passe sont des solutions qui sont pas durables, qui deviennent fragiles. Ça fait des et on est encore aujourd'hui en train de découvrir les conséquences. Le dark web va beaucoup plus vite que alors même que. Ces failles-là, ces sujets-là ont déjà été relevés à plusieurs reprises et sont connus. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle des zero days, c'est-à-dire une nouvelle attaque qui n'avait jamais été connue, jamais identifiée. Pas du tout, ce sont des choses qui sont sous nos yeux, mais dont on ne s'est pas occupé sérieusement. Et c'est comme ça que l'étude que j'avais faite sur le périmètre du CAC 40 au mois de décembre indiquait 3,3 millions de fuites de couples identifiés en mot de passe sur le seul mois de décembre.
Ouais.
Et je ne te dis pas ce qui s'est passé en janvier et en février, c'est la même chose.
Ouais.
Donc il y a un vrai sujet sur les domaines les plus sensibles et critiques de modifier le plus rapidement possible les méthodes d'identification et d'authentification en utilisant ces méthodes.
Donc c'est ça. La première recommandation, c'est basculer à des systèmes quand même plus modernes avec des QR codes, avec
basculer en 2FA. La deuxième chose, c'est la deuxième recommandation, c'est d'être certain on voit passer ou on va recevoir ou on va identifier les fuites d'identification d'identifiants et de mots de passe qui nous concernent, qui vous concernent. Et pour ça, il faut faire appel à des gens qui savent faire, ce qu'on appelle des hackers éthiques. Et là, on débouche sur une troisième question, qui est celle du statut du hacker éthique, qui, par exemple, en Belgique ou aux Pays-Bas, est beaucoup plus protégé. Le simple fait de chercher de l'information pour le compte de quelqu'un d'autre, de regarder s'il y a eu des fuites, c'est comme si on me demandait de regarder s'il n'y a pas des doubles de clés qui traînent dans certains coffres. Le simple fait de chercher des doubles de clés pour le compte de quelqu'un, pour lui éviter, parce que
ça peut être vu comme un délit.
C'est vu comme un délit aujourd'hui. Et donc il n'y a pas de cadre. Et il y a, à mon avis, dans les urgences qu'il faudrait gérer, il n'y a pas que annoncer 200 millions qui sont prélevés sur le budget France 2030. Donc c'est pas des nouveaux crédits. Surtout que le temps de mise en œuvre de la réaffectation va être un temps long pendant lequel tout le monde va continuer à se servir.
Et pendant ce temps, l'IA avance, on voit les. Voilà. On va pas parler de mythos parce que et donc,
La question, c'est celle de l'agilité. C'est être les premiers à savoir où on a des fuites. C'est tout l'objet d'ailleurs des fameux pen tests qui sont conduits dans certains contextes pour permettre à des équipes très agiles de vous dire voilà, vous êtes les seuls à savoir qu'on a pu rentrer là, là et là. Et d'ailleurs, quand on est entré là, on avait la clé, on n'a même pas eu besoin de casser un carreau.
Donc recommandation plus d'agilité, recommandation d'aller plus vite dans toute cette mise en place de nouveaux outils. Ce serait quoi l'autre recommandation, Philippe?
L'autre recommandation, c'est on demande de plus en plus aux Français de se protéger eux-mêmes, tout en leur expliquant que l'État veille sur eux et est là pour les sécuriser. Bah, j'ai refait le calcul depuis 2024. Il y a 91 millions de comptes qui ont fuité pour 68 millions de Français. Donc, d'une certaine manière, l'État a réussi à nous fuiter plus que nous-mêmes.
Oui.
Donc, un, il faut faire attention. Deux, il faut changer de mot de passe extrêmement régulièrement, même si c'est compliqué et difficile. Trois, il faut vérifier quel navigateur on utilise et s'assurer que son ordinateur n'a pas été compromis. Parce que les fuites de mots de passe dont je parlais tout à l'heure sur le CAC 40, elles concernent pas du tout ou très rarement des collaborateurs de ces entreprises qui ont été piratées. Elles peuvent concerner des fournisseurs tiers, ou bien des comptes ou des mots de passe simplement qui ont été utilisés pour aller faire des achats chez un partenaire externe. Donc c'est à la fois le système cœur des grandes entreprises et tout le réseau de partenaires et toute une chaîne de confiance en cascade qui aujourd'hui...
En fait, c'est plus du process que vraiment du... Enfin, il faut du budget évidemment pour déployer tout ça, mais c'est plus du process qu'il faut mettre en place.
Oui.
Et ce sera ma dernière question.
Oui, mais avec un point essentiel, c'est que on a centralisé, plus on centralise des données quelque part, plus on en fait un point de vulnérabilité singulier. Et donc, plus le process devient important, certes, mais plus l'agilité nécessaire pour détecter les failles dans le process et les corriger le plus rapidement possible est nécessaire aussi. Et ça peut pas être uniquement conduit par des sociétés qui elles-mêmes sont processées ou par des mécanismes de commande publique qui sont eux-mêmes processés. Il faut être capable de gérer les exceptions avec des équipes extrêmement agiles.
Merci Philippe Devos d'être venu parler tout ça, fondateur de Phileos, conférencier, auteur, expert en cybersécurité, vous l'avez compris. Et bien voilà, réécoutez même un peu cette interview là pour savoir un petit peu ce qu'il faut mettre en place à la fois en tant qu'individu, collaborateur, mais aussi en tant qu'entreprise. Merci Philippe d'être venu parler tout ça et à très bientôt.
À bientôt.
Sur l'antenne de BFM Business. Allez, tout de suite, on va parler productivité, on va parler intelligence artificielle avec nos deux invités suivants.
Tech & Co Business, le débat.
Allez, débat avec nos deux amis, Vincent Champin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bienvenue, président de l'Observatoire du long terme, Chief Digital et IT Officer chez Framatome, aussi membre du COMEX. Mais là, c'est justement avec l'Observatoire du long terme, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle, de ce rapport sur la productivité, le grand décrochage, et ça va être l'occasion de notre débat d'en parler, donc édité par l'Observatoire du long terme. Et avec nous pour justement débattre de tous ces sujets, Gilles Babinet. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Entrepreneur, ancien président du Conseil national du Conseil numérique, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le péril IA, aux éditions Le Passion. On aura l'occasion certainement de se revoir sur ce plateau pour en parler. Et président de Café IA, vous savez, qui porte justement la formation sur l'IA auprès de nous, de vous tous, français, que vous soyez actifs dans une entreprise ou pas. Voilà, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur comment vivre aujourd'hui avec l'IA. On commence, Vincent. Ça veut dire quoi, ce grand décrochage là? C'est le titre de ce rapport. Donc déjà, comment a été constitué ce rapport?
Alors, ce rapport, c'est un travail qu'on a voulu faire, enfin, à la fois assez technique. Donc, on a travaillé notamment avec Antonin Bergeot, qui est le meilleur économiste de France.
Oui, il y a beaucoup 2025, de chiffres, faut le dire.
Beaucoup de chiffres. Et c'était pour, en fait, l'idée, c'était d'essayer de mettre des chiffres sur un phénomène, l'écart de productivité entre la France et les États-Unis. Quand on est en technologie, on voit des choses. Mais en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que c'est des choses qui se font très, 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 très doucement. Et on a besoin de se retourner, de regarder sur 25 ans pour voir un peu l'ampleur du gap. Et là, le gap, c'est entre 20 et 30 points de PIB, donc de richesse qu'on a en moins. Et on explique aussi les causes de ce décrochage. Il y en a un certain nombre qui renvoient à la technologie, pas tous. Et aussi, et ça c'est un côté plus optimiste, les voies qui permettraient de remonter la pente. C'est important pour donner un chiffre. Bon, la crise là sur le détroit d'Ormuz, l'INSEE estime que ça aura un impact sur le pouvoir d'achat qui est fait à peu près 1/150 de ce que représente la perte de pouvoir d'achat du grand décrochage. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait pas de bruit, mais qui année après année, est vraiment très significatif.
Alors justement, le rapport met en évidence un écart croissant entre la Chine, les États-Unis, d'une part, la France et l'Europe. Et c'est vrai, on en parle souvent ici, et ensemble avec Gilles, avec toi Vincent. On a l'impression d'être un peu les témoins, nous en Europe, même si on a des cerveaux, on a des entreprises qui sont en train de monter, mais justement, comment faire justement? Enfin, déjà, est-ce que c'est normal qu'on ait cette impression d'être des observateurs de ces échanges Chine-États-Unis? Et puis, comment faire derrière pour rattraper ce...
Ouais, bon, il y a un phénomène, c'est toujours un domaine qui va aussi vite que la technologie. On a toujours tendance à regarder ce qui se passe ailleurs, puis à ignorer ce qui se passe chez nous. Mais quand on regarde quand même les chiffres, c'est vrai que la cause de cet écart de productivité, si on prend les trois facteurs, l'innovation, dans laquelle la technologie joue beaucoup, c'est une des causes de ce décrochage. La deuxième, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est le taux d'emploi, le chômage, et puis aussi la qualité du management. Donc la façon dont on utilise les salariés et aussi dont on injecte le digital dans l'économie le plus rapidement, mais c'est des domaines sur lesquels on a un retard. Alors, est-ce qu'on est dans un rôle de pur observateur? Non. On est acteur dans ce domaine, mais effectivement, on a quelquefois l'impression qu'on est un peu l'incubateur du monde, et puis que les entreprises qui ont du mal à grandir chez nous vont grandir ailleurs, ou avec des capitaux d'ailleurs, qui vont les pousser à amener plutôt la productivité dans d'autres pays. Et puis l'autre sujet, sur une vague comme les vagues technologiques qu'on a autour de l'IA, la part liée au secteur de l'IA, à long terme, elle est infinitésimale par rapport à la croissance qui est liée à la bonne intégration de l'IA dans les autres process. Si on se retourne et qu'on regarde l'Internet, on estime que ça a apporté aujourd'hui 20 à 25 points de PIB. Alors, on pensait en 2000 que ça prendrait 3 ans, en fait, ça en a pris 25. Mais ça a apporté 25 points de PIB. L'essentiel, c'est par la bonne utilisation du numérique dans tous les domaines. Mm-hmm. Pour l'IA, ça sera la même chose.
Gilles, justement, réaction par rapport à ça. Est-ce que on se condamne à rester des clients alors qu'on pourrait être des architectes un peu de tout ça?
Oui, alors le décrochage, il est explicite, hein, il est manifeste, on le voit. L'Europe est très loin derrière. On le voit en termes d'investissement, mais aussi en termes d'usage. C'est extrêmement préoccupant. Je pense que l'analyse, elle a été. Alors, il y a un certain nombre de recommandations dans le grand décrochage qui sont d'ailleurs pour certaines d'entre elles assez amusantes, qui concernent les enjeux de management. Mm-hmm. Mais il y a aussi un certain nombre de recommandations qui ont déjà été faites, en partie par Draghi. Intégration des marchés financiers, intégration des marchés de services et de marchandises. Bon, ça, c'est des choses, c'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire. Je pense que c'est un peu le moment historique pour l'Europe, c'est-à-dire que soit on est capable de faire ça dans les 2-3 années qui viennent, soit le décrochage sera à peu près irrémédiable au regard de ce qui est en train de
Et l'IA, elle peut nous aider à accélérer sur certains points?
Oui, parce que, en fait, et Vincent vient de le dire, il y a une part managériale qui est très importante. Donc, moi, mon sentiment, hein, je peux me tromper, mais c'est que finalement, ces technologies, elles sont en train de se commoditiser. Et que la grande différence, ce n'est pas tant de posséder les entreprises frontières, les Claude, les entreprises, les Gemini, que de savoir les intégrer, ce que vient de dire Vincent d'ailleurs, les mettre en œuvre à cet égard. Et si on était, je pense, un peu une nation conquérante, on se poserait vraiment beaucoup cette question. Ce que met en évidence le rapport, c'est la faiblesse du management. Le management français confond management et commandement. Il y a beaucoup de souffrance au travail. Cette souffrance, elle se traduit par des pertes de productivité. Oui. Bon, c'est la question qui est absolument jamais évoquée. Dans les accords syndicaux, qui est très difficile à saisir, parce que on peut pas dire bon, vous allez vous améliorer en management et puis en échange, nous, on accepte syndicat de travailler plus ou je ne sais quoi. C'est toujours considéré un peu comme un jeu de dupes. Pourtant, c'est vraiment là-dessus qu'on devrait se concentrer. Oui. Et avec l'IA, ça devient un enjeu qui est incontournable, de savoir si on surtaillorise les gens ou au contraire si on les détaillorise. Et si on fait en sorte que finalement on est capable de changer un peu de modèle d'affaires, de modèle productif. Ça, c'est vraiment un enjeu absolument central pour la France et l'Europe. Et
c'est important, là, cet aspect managériel. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Alors, évidemment, on a quelques patrons qui donnent un élan dans leur entreprise, mais après, il faut voir comment c'est suivi en dessous, comment ça ruisselle, ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors, déjà, c'est une moyenne, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, il y a, en fonction des secteurs et des patrons, il y a l'excellent qui côtoie le moins excellent. Mais ce que montrent les études, notamment une étude d'un chercheur qui s'appelle Nick Bloom, repris par Gilles Berset, donc un des spécialistes de la productivité en France, c'est qu'effectivement, dans le type de management, on a un management un peu plus hiérarchique, un peu plus axé sur la formation initiale et qui, du coup, dans sa capacité à intégrer des technologies nouvelles de rupture,
ça, c'est très français.
Un peu plus lent. Il y a une dimension française qui est un peu plus forte. Mm-hmm. On le retrouve dans d'autres pays, mais c'est un peu plus fort. Et ça, bah, ça se traduit en productivité. Alors, il y a un truc assez amusant. Si vous regardez les mémoires de Perfit, vous avez une discussion entre Perfit et De Gaulle. Je crois que c'est dans les années, à la fin des années 60. Et en fait, De Gaulle demande à Perfit, mais pourquoi les boîtes américaines sont plus efficaces que nous? Et en fait, la réponse, ça tourne déjà autour de ça. Donc, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Oui. Mais en fait, à chaque grande vague technologique, ça se voit un peu plus. Une fois qu'elle est complètement intégrée, on finit par rattraper. Mais là, on a un petit retard au démarrage.
Le rapport parle aussi du les heures, le tabou des heures, du modèle nordique, hein, donc ce sujet sensible du travail. Et pour sauver notre modèle social, est-ce que faut-il travailler plus ou simplement travailler mieux avec l'IA?
Ça, c'est enfin, le grand sujet. Je me souviens, au milieu des années 90, hein, on parlait du modèle nordique en France. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, il y a trois modèles dans le monde. Il y a le modèle un peu libéral, où en fait, chacun pour soi. Et donc, un désajustement, bah, les malheureux qui sont dans les secteurs touchés se retrouvent au chômage, et puis il faut qu'ils se débrouillent. Il y a le modèle nordique. Le modèle nordique, bah, en fait, on met des moyens pour accompagner les personnes. Donc, plus de moyens sur la formation, plus de moyens pour faire passer ce que Sauvy appelait le déversement et leurs emplois des secteurs qui ont moins de croissance vers ceux qui ont plus de croissance. Et on a le modèle français qui était un peu entre les deux et j'allais dire, un peu moins efficace. Et donc, à l'époque, effectivement, la France regardait le modèle nordique et notamment dans toutes les statistiques, notamment celle de l'OCDE, la part des dépenses passives de l'emploi, c'est-à-dire qu'on indemnise une situation difficile par rapport aux dépenses actives, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent aux gens pour sortir de cette formation difficile, la formation. Bah, la France, il y a 30 ans, était en queue de peloton sur le ratio passif sur actif. On l'est toujours. Donc, à l'époque, on parlait de flexi-sécurité. Je pense que sur la flexi, on a un peu évolué. C'est-à-dire que le droit du travail a eu plus de flexibilité. Sur renforcer la sécurité, l'accompagnement, les parcours, on a fait des progrès, mais moins vite que les autres.
Gilles, pourquoi cette magie-là, tout le monde parle du miracle, l'IA générative, l'IA agentique et tout ça, pourquoi on a l'impression que ça ne s'apprend pas tout de suite chez nous?
Alors, il y a un paradoxe français qui est assez intéressant, c'est qu'on est le deuxième pays au monde en termes d'usage des systèmes conversationnels, hein, ChatGPT et consorts, derrière les Émirats Arabes Unis, mais en termes d'intégration des entreprises, on est très loin. Alors, on n'est pas loin des derniers, mais on est assez loin. On est derrière les États-Unis, on est derrière l'Allemagne, voilà. Et je pense que ça rejoint un peu le point de Vincent, c'est-à-dire que on a un système productif qui est assez parcellisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de, on va dire, de confédérations efficaces. Ce qu'on voit vraiment dans le Mittelstand, dans les distritti du nord de l'Italie et du sud de l'Autriche, qu'on voit aussi en Suisse. Nous n'avons pas cette habitude de se concerter sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. À cet égard, ça c'est vraiment un facteur qu'on avait essayé d'ailleurs sous Chirac de corriger en créant les pôles qui avaient cette vocation, les pôles de compétitivité, mais qui n'ont pas réussi finalement à vraiment structurer. Ils sont plutôt des conseilleurs que des arbitres comme on l'observe. Alors il y a deux domaines qui font, je pense, exception à ça. C'est l'aéronautique et le luxe, où on travaille en filière avec une certaine efficacité. Mais par exemple l'automobile, c'est la guerre entre les sous-traitants et les ensembliers, que sont les constructeurs automobiles. Et l'agroalimentaire, on n'a absolument pas ces effets de filière. Il y a une opacité maximum.
Et la défense, c'est beaucoup du silo aussi.
Oui, alors je connais moins bien le secteur de la défense, mais effectivement, on n'a pas ça. Donc on a encore un très très gros travail, mais nommer les choses, c'est déjà leur permettre de commencer à avoir une réalité.
Il faudrait une DARPA, la française, c'est ça que préconise un peu le rapport. Ouais, DARPA, alors, la française, c'est une agence de l'innovation, on va dire, comme le DARPA, c'est ce qu'ont les Américains.
Alors, les propositions, elles vont au-delà de proposer une entité, parce qu'on sait que c'est plus profond que ça. Hein. Notamment, quand on regarde la remontada de la Chine dans l'IA, on voit que la façon dont ils ont rattrapé en 25 ans les Américains, c'est uniquement par des leviers que l'Europe aurait tout à fait pu faire. Donc effectivement, c'est de concentrer les moyens sur quelques grands projets dans une logique de DARPA. C'est aussi d'utiliser des leviers comme l'open source, hein, qui n'est pas un rêve de technophile, mais un très très bon outil quand on a une position établie très forte et qu'on veut offrir des alternatives à des prix raisonnables. Et puis, l'investissement dans la recherche. L'investissement dans la recherche, on est à 2,2 points de PIB. Les autres pays sont à 3.
Sur ce sujet-là,
on a encore pas mal de restes des investissements d'il y a 25 ans. Mais là, il y a un vrai risque. Et pour revenir sur ce que disait Gilles, hein, l'histoire de la productivité, c'est que les gains de la technologie, ils viennent d'une transformation outillée par la technologie. Donc la technologie seule n'apporte pas la productivité. Ce qui apporte la productivité, c'est de rechanger effectivement une supply chain, de retransformer un process de bout en bout, de travailler sur l'entreprise étendue. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on a des POC, mais on n'a pas des choses qui sont visibles dans les chiffres de productivité.
Est-ce qu'on a du mal à se transformer, enfin à revoir un peu ses process, c'est ça Gilles?
Oui, la France a une culture managériale qui est réputée assez mauvaise. Mm-hmm. L'ensemble des études qui sont faites à cet égard. J'ai parlé tout à l'heure de la confusion entre commandement et management. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que on a aussi les meilleures écoles de management au monde. On a HEC,
oui, on a des patrons qui sont régulièrement, on dit ça régulièrement.
Mais il y a une forme de stratification tout en haut d'une tête d'épingle qui est très très bonne. Puis en dessous, dès qu'on descend, c'est beaucoup beaucoup plus dur là-dessus. Donc il y a un travail d'animation de ces filières. Et je pense que il faut se saisir de l'opportunité de l'IA agentique pour faire ça. C'est-à-dire, l'IA va faire exploser les processus. C'est-à-dire que les gens qui font de l'incrémental vont se mettre en danger. Ceux qui sont capables de repenser leur modèle de production, leur supply chain, vont créer vraiment des rendements très supérieurs.
Mais d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Ce sera ma dernière question, Vincent. C'est promet 30% de productivité. Alors, on pourrait dire, ça y est, on va rentrer dans les campagnes électorales présidentielles dans quelques mois. Mais non, c'est hyper documenté dans le rapport. Et on voit que non, ce chiffre-là, il n'est pas lâché comme ça.
Alors, un, c'est documenté. Deux, on met même un simulateur. Donc, il permet à chacun de voir sur quel levier à jouer. Donc, c'est sûr que le potentiel, si on pousse tous les curseurs au bout, c'est 30%. Alors, celui-là, c'est à 5, 6, même 7, 8 ans pour la partie recherche. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Et c'est pas des choses où la productivité, effectivement, va être l'ennemi de la mobilisation des salariés ou du bonheur au travail. Comme l'expliquait Gilles, il y a des domaines sur lesquels les deux peuvent avancer de front.
Oui, il y a vraiment un choix de société, quelque part.
Oui. Il y a une capacité vraiment à dynamiser. Et ce qu'on dit aussi, c'est que cette productivité, c'est la capacité aussi à financer la retraite, à financer les services publics. Donc, il y a beaucoup de leviers, j'allais dire, d'épanouissement des Français et de leur société qui sont liés à cette productivité. Donc, c'est pas qu'un sujet technique, c'est même pas qu'un sujet d'IA ou de technologie. C'est vraiment ce qui porte un peu le creuset de la concorde pour les Français.
Voilà, en tout cas, un rapport à retrouver sur le site de l'Observatoire du long terme, un très intéressant rapport. Regardez, il y a beaucoup de chiffres, mais voilà, il y a plein d'enseignements autour de tout ça. Merci Vincent Champin, donc président de l'Observatoire du long terme, chief digital et IT officer chez Framatome, membre du COMEX. Voilà, ça c'est à la ville. Et Gilles Babinet, entrepreneur, ancien président du Conseil national du Conseil numérique, auteur de nombreux ouvrages, dont Le Péril IA, et on se reverra certainement très rapidement, qui vient de sortir, et président de Café IA, justement pour nous former à l'IA. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. On se retrouve dans un instant, marque une courte pause, on va parler cybersécurité avec nos invités suivants. À tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, deuxième partie de cette émission, notre débrief de l'actu cyber avec nos spécialistes, Michel Juvin, Ecosystem Advisor chez Allianci. Bonjour Michel.
Bonjour.
À tes côtés, Jérôme Bilois, associé cybersécurité confiance numérique chez Wavestone.
Bonjour.
Et Wavestone que l'on retrouvera d'ailleurs à Vivatech avec BFM Business. Là, on se retrouvera sur un plateau pour parler de cyber, enfin pour parler de beaucoup de choses. Benoît Grunemval, expert en cybersécurité chez IZ France. Bonjour Benoît. Et Pascal, le Dijol.
Le Deagle,
voilà. À chaque fois, je me dis, il faut que je lui demande. Directeur France, WatchGuard Technology, merci Pascal d'être avec nous. Juste un petit mot. Tiens, on parlait il y a quelques semaines de la NTS. Alors, c'était des titres sécurisés. On en parlait d'ailleurs au début de cette émission avec Philippe Devost. C'est France Titres aujourd'hui, donc ils ont été piratés. Ça concerne nos données de permis de conduire, de carte d'identité, de passeport. Donc, c'est quand même plutôt sérieux. Et puis, on a arrêté un jeune hacker, Bridge 3D, qui a piraté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrestation?
Alors c'est un jeune Bastiais qui a réussi en fait à trouver les moyens en utilisant en fait.
C'est pas forcément un petit génie, c'est un curieux, un peu geek quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, la méthode qu'il a utilisée, on pourrait croire que ça l'a porté tout le monde. Mm-hmm. Ça nécessite quand même un peu de réflexion et puis avoir un objectif dans la tête. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que c'est possible, c'est accessible. Et un peu à tout le monde, et c'est ça qui fait peur. D'autant plus que cette faille, elle était visiblement connue depuis quelques années, ce qui met en cause effectivement la protection de nos sites. Et la réponse du Premier ministre a été forte, puisque donc un budget de 200 millions d'euros, du bug bounty. Alors ça tombe très bien parce qu'on a justement une très belle société bug bounty en France qui va certainement bien opérer. Et puis 5% de budget de l'ensemble des ministères pour la cybersécurité. Et ça, c'est une bonne chose. Mais en fait, on peut se poser la question, quelle punition apporter oui. à ce jeune hacker, sachant que c'est une vraie problématique, qui a d'ailleurs été documentée par l'un des mémoires de l'école.
Parce qu'il a 15 ans, on ne va pas lui mettre 30 ans de prison.
Oui, non plus, et
en même temps,
il faut se poser la question. Faut se poser la question, est-ce qu'on va le faire baigner dans un milieu de criminels pour qu'il apprenne un peu plus ou un peu mieux ce métier qu'il a goûté, ou au contraire, est-ce qu'on va réussir à le recadrer et à le renvoyer en fait dans des environnements éthiques? Et
puis ses motifs étaient quoi? Ses motifs étaient pécuniers? C'est-à-dire parce que il a volé ses données, il les a mis sur le dark web, il a gagné de l'argent avec ça, ou alors c'était pas que la performance technique?
Je pense pas qu'il ait gagné d'argent. Pour autant, il avait un précédent dans lequel il avait déjà essayé de gagner de l'argent. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'il y avait un hack for de monnaie au début, oui. et puis ça s'est transformé en hack for fun, mm-hmm. Dans la mesure où il est allé lui-même à la gendarmerie de Bastia pour ouais. préciser que c'était lui qui l'avait fait. Mais quand on revient sur le budget de 200 millions d'euros, on se dit... C'est 200 millions, pardon.
Oui. Alors, pris sur le budget France 2030, hein, c'est pas une nouvelle oui. enveloppe.
Quand on y réfléchit bien, on se dit, mais un expert cybersécurité, c'est environ 1500 euros par jour. Il travaille 220 jours dans l'année. Donc on divise 200 ouais. millions par 1500 et par 220 et on trouve environ 600 personnes. Oh! Et là, on se dit tout de suite, ça va pas être simple de trouver 600 experts. Et c'est des experts cyber qui vont pas faire simplement qu'appliquer la réglementation. Il faut qu'ils soient un niveau au-dessus. Mm-hmm. Parce qu'il y a des tas d'entreprises mm-hmm. qui étaient conformes réglementairement et qui se sont fait hacker. Donc là, il faut réfléchir un petit peu plus. Et on est confronté là quand même à un vrai problème de fond.
Pascal, un petit curieux.
Un petit curieux, oui.
Mais un peu habile, un peu agile.
Habile, oui, ça ressemble.
Un peu malin.
Ça voilà. ressemble aux techniques de piratage. Vous savez, quand vous apprenez le piratage, je sais que ouais. tu as déjà suivi les cursus initiaux, mm-hmm. ça ressemble aux premières questions. C'est-à-dire, on voit ouais. les exercices et la manière dont il est piraté, c'est un de ses premiers exercices. Donc, effectivement, ça n'allait pas forcément très loin. Il faut tomber dessus. Mm-hmm. Donc, d'où la curiosité. Après, ce qui va lui tomber dessus, il y a une loi. Hein. De toute ouais. manière, il tombe sous le coup de la loi. Alors, il est mineur, donc voilà, ça sera quand même atténué par rapport à ça. Puis après, oui, il faut essayer de, comme tu disais, recadrer.
Ouais. bon, utiliser ses compétences, Benoît, ouais. ce serait ça.
Après,
pardon,
juste,
vas-y, Pascal.
Juste un dernier point. On parle de budget, beaucoup de budget. Moi, j'y vois surtout un problème de responsabilité dans cette ouais. histoire-là, parce que le budget, la NTS, ils en avaient. C'est pas ça qui leur a fait, mm-hmm. qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas la faille. Donc, il y a des responsabilités un peu trop diluées.
Oui, même s'ils avaient ce sujet-là. Parce que moi, j'ai entendu aussi certains qui disaient, oui, mais on a un gros legacy qui est compliqué à bouger et tout ça. Mais toutes les entreprises ont des gros legacy. Alors,
c'est ça. Voilà. Là, il y a surtout des couches aussi de sous-traitance, de mm-hmm. Qui est permanent, pas permanent. Enfin, je pense que si on s'y penche.
Il y a un peu de process.
C'est trop dilué, un peu tout ça.
C'est ça, Omar Benoît. Ouais.
Oui, donc il risque soit 7 ans de prison, soit 300 000 euros d'amende. Donc, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui ne l'a pas dissuadé de le faire. Et moi, ça me rappelle une opération qui s'appelle Cactus, qui a été menée il n'y a pas longtemps conjointement avec Cybermalveillance, et qui a envoyé sur les ENT un hameçonnage pour sensibiliser les différents élèves au bon réflexe. Oui. Peut-être qu'il faudrait l'accompagner aussi d'éléments qui leur permettraient de se manifester, si jamais, mm-hmm. Au-delà de l'hameçonnage, qu'ils arrivent à déjouer, s'ils ont des compétences et qu'ils veulent pouvoir les mettre au service des autorités, par exemple, mm-hmm. ou des boîtes privées, parce qu'à 14-15 mm-hmm. ans, on est encore sur l'ENT et on peut tout à fait lever la main.
Moi, je me souviens, il y a quelques années, hein, le ministère de la Défense qui est à côté de chez nous, c'était avant le Covid, hein, ça date un peu, ils avaient mis à jour, alors rendu public des informations sur la machine Enigma. Donc, on était allé voir la conférence de presse. Et puis, en parallèle, ils avaient gardé un dernier petit quart d'heure en disant, tiens, on va organiser un grand concours pour les lycéens, justement, pour repérer un peu pour nos services de renseignement. Tiens, ce serait bien, je vais les recontacter, savoir où ils en sont quelques années plus tard. Voilà pour ce jeune hacker. On verra, on suivra bien entendu ça. Et alors, des jeunes hackers, il y en a pas mal qui sont formés en Russie. C'est Jérôme qui a repéré. C'est un article du Monde hein, qui sur des docs qui ont fuité de l'école de GRU pour entraîner au piratage des informations. Là, on part en Russie, hein, Jérôme.
Voilà, là, on part en Russie. On est à l'université Bauman de Moscou. Mm-hmm.
Qui est une école assez prestigieuse.
Voilà, hein, qui est une université d'État reconnue, etc. Et qui a une section, section numéro 4, qui effectivement est assez discrète, mais elle a eu une grosse fuite de données qui, cette fois-ci, nous intéresse parce qu'on y apprend plein de choses et Le Monde ainsi qu'un consortium de journaux internationaux ont pu décortiquer tous les documents qui montrent clairement qu'il y a des cursus pour devenir pirate au sein au sein de l'État russe, avec une approche qui est vraiment une couverture à 360 degrés des compétences requises.
Oui.
Parce que ça va du classique sur comment marchent les ordinateurs, les serveurs, l'infrastructure, etc. Et sur du beaucoup moins classique, par exemple, comment on positionne des micros, des caméras dans des domiciles.
La palette complète.
Oui. Voilà. Et il y a aussi une grande catégorie que souvent on ne retrouve pas justement dans l'approche plutôt française européenne de la cybersécurité, c'est toute la lutte informationnelle. Et finalement, ils ont des cours sur comment on décrédibilise quelqu'un, sur comment on fait
d'ailleurs,
passer un rationnel.
On soupçonne que ce soit eux qui attaquaient. Donc, on parle de fin de Sibir, d'APT28. On soupçonne que ce soit eux qui attaquaient TV5 Monde. Hein. Je crois que dans le Monde, c'est ce qu'ils disent il y a quelques années pour.
Oui, alors c'est pas directement l'université, mais effectivement, cette université nourrit.
Des gens formés dans cette.
Voilà, cette université nourrit les services de renseignement russes. En particulier le GRU, mais il y en a d'autres aussi, qui ont été associés à beaucoup de cyberattaques d'ampleur, TV5 Monde. On les a aussi reliés aux tentatives sur les Jeux Olympiques, aux tentatives sur la campagne...
Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ça, Jérôme ?
Alors, bon, je pense que ça ouvre le couvercle sur quelque chose qu'on sait tous, tous les services de renseignement, de toute façon, cherchent à avoir des forces vives nouvelles. Mm-hmm. Là, c'est vraiment, je pense, l'industrialisation. Déjà, il y a une vraie filière. Chez nous, c'est, tu l'évoquais à l'instant avec les militaires, qui disaient, tiens, on peut essayer d'intéresser les profils. Et après, ils les forment en interne. Là, il y a une vraie filière externe de formation.
Ouais, de pirates.
Voilà. Et surtout, une filière qui mixe toutes ces dimensions simultanément, et en particulier la dimension informationnelle, qui est quelque chose qu'aujourd'hui, à ma connaissance, dans tous les cursus cybersécurité en France, on ne traite pas. Même dans une logique défensive. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va être dans des choses très techniques dans la défense, mais moins dans la défense informationnelle, alors que c'est quand même un des enjeux majeurs de ce qui...
Nous, on est vraiment, dans cette partie technique.
On sépare la cybersécurité au sens « je protège mes données, mes serveurs, mes infrastructures » de la défense face à des fausses informations, des deepfakes, des fake news, qui sont, dans les grandes entreprises, plutôt rattachées à la communication. Mais de plus en plus, il y a des liens avec les équipes cyber quand même. Ça commence, c'est naissant dans quelques structures où les équipes de réponse à incidents dans ces grands groupes du CAC 40 commencent à être sollicitées par la com pour justement déjà bien analyser quand ils sont victimes de campagnes d'attaque et puis voir comment répondre, en restant là évidemment dans un cadre légal, mais répondre de manière intelligente face à ces attaques. Et là, c'est sûr qu'en termes de formation, on n'a pas grand-chose en France aujourd'hui.
Ah, c'est intéressant ça, de voir, Pascal, justement, d'avoir ces formations plus globales, alors à la fois technologiques et puis de la géopolitique, former un peu ces gens-là.
Faut rappeler que là, on parle souvent de cybercriminalité, mais la cybercriminalité, c'est aussi un pan du militaire. Et qu'ils aient des cursus pour nourrir le militaire, j'espère qu'on
l'a même. La même formée qu'ils formaient des espions, et des espions au sens...
En fait, si on fait un pas de recul, c'est logique et sain de leur point de vue, que les formations soient
cadrées. Mais peut-être pas dans le côté offensif de désinformation.
Pourquoi pas? Je pense que quelqu'un qui est formé pilote dans l'aviation apprend aussi à larguer une bombe. Aujourd'hui, en fait, on parle d'un outil qui est un outil militaire. Donc, il sert aussi bien à la défense qu'à l'attaque. Et je pense qu'on a, c'est vrai qu'on parle souvent des Russes, des Nord-Coréens qui attaquent, etc. Mais le jour où il y a une guerre et qu'il faut faire la guerre numérique, il va falloir qu'on attaque aussi. Donc, j'espère qu'on est formé comme cela.
En tout cas, dans la doctrine du ministère des Armées, dans la doctrine cyber, il y a déjà un grand plan sur la lutte informationnelle. Donc, on a déjà les experts et on sait déjà faire. Après, c'est qu'on a moins de formation labellisée comme ça, en tout cas, visible.
Là, elle était cachée. Donc, rien ne dit que...
Nous, on l'est. Benoît.
Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fameux compte ex-Twitter de la France qui permet, le nom m'échappe, mais qui permet aussi de débunker ces fausses informations. Donc, c'est aussi un début. Il y a peut-être pas je ne sais pas si le community manager a été formé particulièrement pour ce compte-là, mais il tourne en parodie un certain nombre de fausses informations, ce qui permet de répondre, on va dire, à la française. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces documents, un peu comme iSoon, c'est un leak qui est arrivé en Chine et qui nous montrait comment un sous-traitant pouvait travailler pour l'État et mener des opérations un peu similaires à APT28, nous révèle comment ça fonctionne. Une fois que les documents sont authentifiés, on a vraiment des mines d'informations qui sont énormes, véridiques, et qui nous permettent de mieux comprendre effectivement comment se préparent ceux qui cherchent parfois à nous déstabiliser. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fortement intéressant, à mon avis, qui va mériter d'être étudié.
mais c'est ce qu'on disait depuis pas mal d'années, parce que souvent on disait attention, oui, moi je suis pas une entreprise menacée. Je parle de ça il y a encore 3-4 ans, parce que je suis pas une banque, je suis pas un acteur. Et puis on dit oui, mais votre patron il est exposé. Enfin, il y avait tout ça, on en parlait à l'époque, Jérôme.
Oui, tout à fait. De toute façon, la menace est vraiment protéiforme. Et c'est vrai qu'on voit la menace classique du ransomware, mais si on observe ce qui se passe aujourd'hui, cette menace elle évolue énormément. On n'est plus juste sur j'envoie un phishing, je pirate un ordinateur et j'accède au serveur pour tout couper. On est vraiment sur plusieurs axes. On va attaquer les systèmes cloud pour extraire des données discrètement. Mm-hmm. On a des attaques sur les RH, sur le recrutement. On en a déjà parlé ici avec la Corée du Nord, mais il y a d'autres actions sur ce volet-là. Et on a les attaques sur l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est face à une menace qui vraiment s'élargit dans les canaux par lesquels elle peut être activée et s'élargit aussi sur les acteurs qui le font.
Oui, moi, ça m'amène à une prise de conscience qu'on tarde un petit peu à venir. C'est cette stratégie plutôt offensive. On a toujours été depuis très longtemps sur la défense.
Ou alors, comme le dit Pascal, on ne le sait pas, mais ce serait bien de le faire savoir, peut-être un petit peu pour montrer que nous aussi, on sait se défendre.
Au-delà simplement de le faire savoir, c'est se dire aussi que peut-être dans les entreprises, il faut réfléchir à une stratégie offensive, c'est-à-dire se mettre encore plus à la place du hacker pour se dire, si on m'attaque, comment est-ce qu'on va faire? Cette stratégie offensive, je trouve qu'elle tarde peut-être un peu à rentrer dans le... On est en cyberguerre. On est passé de la cyberguerre froide à la cyberguerre chaude. Et c'est pas une blague. Et maintenant, il faut réfléchir d'une manière un peu plus offensive que ce qu'on a
été. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ce que j'ai à l'instant. C'est quand un patron s'expose ou quand une entreprise s'expose, qu'elle se dise, tiens, le fait que je prenne position, je m'appelle, mettons, Patrick Pouyanné en ce moment, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, le fait que je m'expose, quels sont les risques pour moi d'être exposé justement à des cyberattaques, des informations
Ah oui, c'est sûr. De toute façon, du moment où il y a de l'exposition médiatique liée à une actualité,
là, je pense que Total doit prendre ce
tous les activistes du monde sont certainement sur le dossier.
Oui, et lui, je pense qu'il a bien aussi cerné tout ça avec ses...
Mais sur le côté offensif, on a bien vu là en début d'année la communication de la Maison Blanche sur la nouvelle stratégie cyber. Mm-hmm. Et eux, ils mettent les feux à fond sur le volet offensif, y compris dans un lien avec le secteur privé. Aujourd'hui, c'est une ligne rouge qu'on a en Europe de dire le hackback, la réponse aux attaques reste des prérogatives des États dans le cadre de leur sûreté nationale. Là, les États-Unis ont ouvert une porte assez forte à l'interaction.
Ouais, et on parle bien, encore une fois, on le dit, on parle bien de l'offensive technologique et informationnelle. Enfin voilà, tous les pans un peu de ce côté hacking qui soit à la fois technologique ou justement sur des choses plus soft dans ce domaine. Troisième sujet, c'est toi qui l'a relevé, Benoît, c'est les nouvelles formes d'hameçonnage. Alors tu dis, voilà, j'ai à partir de 4-5 infos, on dit tiens, c'est... Tout ça est en train de changer. Alors évidemment, l'IA a son rôle à jouer parce qu'elle apporte un peu plus d'aide à ceux qui veulent déjouer les portails des entreprises. Alors voilà, explique-nous un petit peu ce que tu as repéré.
Oui, alors j'ai compilé en cherchant autour de l'hameçonnage ce qui pouvait évoluer ces derniers temps. Et le premier constat, c'est parti d'un rapport de Microsoft qui disait que sur le premier trimestre, il y avait plus de 8 milliards d'emails d'hameçonnage. Donc on est encore dans une logique massive. Oui. Il y avait dans ce rapport aussi 143% de ces emails qui en augmentation pour du QR code. Donc du QR code soit directement dans l'email, soit dans des PDF attachés. Donc ça pose la question de comment est-ce que les utilisateurs vont manipuler ces QR codes, comment est-ce que ça va permettre de passer les barrières. Et puis il y a aussi l'utilisation de CAPTCHA, CAPTCHA, qui crédibilise...
À CAPTCHA, on le rappelle, c'est ces petites lettres voilà, qui vous sont écrites un peu n'importe comment, on les déchiffre si on voit bien, ça évite... Voilà, que des robots, que d'autres...
Ne passent les fameuses barrières. Et en fait, en rajoutant ce faux CAPTCHA, eh bien, on va crédibiliser l'accès au site sur lequel on va rentrer ses logins et ses mots de passe.
Ah, et là, c'est juste dans la tête. On s'est dit, tiens, il y a ça, ça doit être sécurisé.
Doit être sécurisé, c'est donc que c'est légitime. Et puis, de l'autre côté, on a les attaquants qui continuent à faire du malware as a service ou du phishing as a service. C'est un peu comme les ransomware. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui vont mettre à disposition des kits. Alors, soit des kits, entre guillemets, traditionnels qui vont usurper l'identité de grandes entités, avec l'intelligence artificielle, effectivement, pour aider les moins talentueux à rédiger les messages. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des kits qui, eux, sont plus pernicieux parce qu'en fait, ils envoient des emails qui ne contiennent rien sauf un numéro. ce qui fait que ça va passer un certain nombre de barrières, on va appeler le numéro et là on va tomber sur un système automatisé avec l'intelligence artificielle qui va vous demander de réaliser.
Et puis là on parle des courriels, mais on a tous reçu la photo de la personne, je suis devant chez vous avec le colis, la camionnette derrière.
Ça c'est un exemple incroyable de personnalisation des attaques qui est vraiment une tendance nouvelle, aidée justement par l'intelligence artificielle. Parce qu'avant on recevait un SMS qui disait vous avez un colis, ah ben là maintenant on reçoit un SMS avec une photo, avec la photo d'un colis, son nom, son prénom, le code de sa porte.
C'est la même photo, donc au bout d'un certain soir, on voit.
Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à croiser les vols de bases de données qui sont très précis, avec justement même le code porte, etc. Mm-hmm. Donc ça donne une légitimité extrêmement plus forte. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ils utilisent l'IA pour changer justement la photo des colis ou la photo du camion, ce qui est malheureusement qu'un pas de plus dans l'automatisation. Ouais. Et je pense qu'ils en ont eux-mêmes l'idée. Je leur apprends pas quelque chose aujourd'hui de révolutionnaire.
Et puis on le dit beaucoup ici, Pascal, on est dans un univers du service. Hein. Et derrière, il y a du service après-vente, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
On est dans un univers du service, on est aussi dans un univers où on voit que l'IA commence à couper des jobs. Mmh, c'est-à-dire qu'avant, on recrutait des petits jeunes pour aller appeler, faire du vishing à partir des informations pour avoir les logins. Ben maintenant, il n'y en a plus besoin, en fait. C'est l'IA qui l'a fait. Avec la voix de l'IA scriptée, avec tout ce qui va bien. Donc, c'est mon premier commentaire, c'est qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître parce que l'IA prend la place.
Y compris dans le monde de la cybercriminalité. Des forces obscures.
Et puis, mon deuxième commentaire, c'est là, on est bien assis confortablement à commenter les choses qui se font, mais prenons le pari. Aujourd'hui, on voit déjà une IA qui est capable de parler à un humain de clairement, alors dans un contexte bien spécifique, de passer le test de Turing, c'est-à-dire que la personne en face humaine ne détecte pas que c'est de l'IA, à quand les IA qui vont dérouler, à partir de toutes les fuites de données qui ont eu lieu, une attaque complète d'ingénierie sociale, en essayant de trouver la faille la plus...
Surtout quand on entend qu'on a pu se faire pirater ses données par son opérateur, par un site marchand chez qui on est allé, par la NTS, son permis de conduire, toutes ces genres de choses.
Je pense qu'on commence très loin d'armer une IA pour être capable, presque de manière autonome, à faire de l'ingénierie sociale, qui est probablement le truc le plus dur à faire pour un pirate, parce que c'est manipuler l'esprit de l'humain qui est en face. Mm-hmm. Mais une IA autonome, je pense que je serais ravi de commenter si jamais tu m'invites encore, quand on sera là.
Ouais, on sera peut-être remplacé par des IA.
Bah, peut-être, oui, justement.
Le kit, et pour terminer, le kit coûte 4 000 $, plus une partie des bénéfices. Donc, on est sur un montant qui peut être conséquent, mais compte tenu des bénéfices faits par les cybercriminels, c'est accessible. Mm-hmm.
Et juste un dernier point, parce que là, on raconte ce qui se passe. Mais en fait, il faut se mettre de l'autre côté, du côté des entreprises. Comment est-ce qu'on défend par rapport à ça? Parce qu'on voit bien que l'hameçonnage, en fait, on passe au-delà de toutes les barrières de sécurité physique qu'on a mises en place, puisqu'on va directement avec un droit d'accès à l'intérieur du réseau d'entreprise. Et donc, l'idée de fond, pour défendre, c'est sensibilisation, d'abord. Il faut parler, expliquer, montrer, démontrer que ça marche très bien. Et puis en même temps, il y a quelques actions spécifiques pour bloquer certains logiciels qui sont en fait des logiciels de binaire qui s'activent au travers donc de ces outils d'hameçonnage. Donc il y a quand même quelques actions à faire pour tenter de protéger un petit peu. Faut pas les oublier. Et c'est vraiment une action que l'ensemble...
Mais c'est vrai que maintenant, on doute de tout. Moi, j'ai reçu récemment c'était l'INSEE qui faisait une enquête sur la santé des Français. Alors, les questions restent assez générales, mais quand même, on nous demande si on dort bien, moi, j'ai eu un doute quand même. J'ai contacté le service de presse de l'INSEE en demandant, il y a bien une enquête en ce moment, et puis, même faire confiance s'il y avait un numéro,
De toute façon, dès qu'il y a de l'urgence, c'est ça le critère numéro un. C'est-à-dire, s'il y a de l'urgence, c'est des données personnelles ou financières. Voilà, déjà, il faut que ça s'allume rouge dans la tête en disant attention, fraude potentielle. Puis toujours contacter l'organisme initial qui a lancé la demande par un autre canal. C'est les bons réflexes, mais il faut que tout le monde y pense, quoi. Et c'est pas simple.
Passer par les applications aussi. Alors, il n'y a peut-être pas d'application pour les sondages, mais si on reçoit un email d'Amélie ou si on reçoit un email de sa banque, bon, moi, généralement, je ne les lis plus, ces emails-là, ils passent directement à la poubelle et je vais dans l'application. Et si je n'ai pas de notification dans l'application,
c'est que ça n'existe pas. Ouais, la banque, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ne communiquent plus par messagerie à la banque. On va à l'intérieur de l'application et c'est par là que l'on communique. C'est vrai que ça, l'INSEE me dirait, rentrez sur votre compte INSEE et allez répondre. J'y serais allé beaucoup plus rapidement. Dernier sujet. Alors, je ne sais plus qui l'avait mis sur le quantique. C'était toi, les attaquants à la pointe du chiffre. Alors, c'est une nouvelle opération du rançongiciel Kyber, identifiée avec du chiffrement post-quantique. On on y arrive. Ça y est, on sait que c'est on est. Bah voilà, on y est.
Bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le chiffrement post-quantique et les cybercriminels l'ont bien compris. Donc ça va. Poser problème aux opérations de déchiffrement. Alors, il y a plusieurs méthodes hein, pour arriver à déchiffrer des attaques par rançongiciel. Notamment, on peut casser le code mm-hmm. peut fuiter. On peut avoir des opérations de police qui vont permettre de saisir des serveurs et donc d'avoir les moyens de oui. pouvoir faire du reverse et de revenir et de déchiffrer. Mais là, avec du chiffrement post-quantique, on passe à une étape supérieure qui va être qui est tout à fait tendance, mais qui va être problématique pendant un certain temps.
Jérôme.
Oui, tendance, comme tu le dis, je trouve que ça démontre plusieurs choses. Sur le fond, aujourd'hui, ça sert à rien pour les cybercriminels de passer au chiffrement post-quantique. Mmh. Parce que la menace que, justement, leur clé puisse être révélée grâce à l'utilisation d'un ordinateur quantique n'existe pas. Aujourd'hui, personne ne. Enfin, voilà. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'ils sont doués pour le marketing ? Oui. Parce que là, ça fait un coup. En disant, regardez, notre chiffrement, il est post-quantique, complètement incassable. Donc, ça, du côté de la victime, ça dit, oh là là, je ne pourrais rien faire, donc il va falloir vraiment que je paye. Et du côté du recrutement pour les cybercriminels qui cherchent toujours à recruter sur les plateformes des nouveaux cybercriminels en herbe qui vont utiliser les outils, ça fait, j'ai l'outil de dernière génération. Mm-hmm.
C'est, ah oui, c'est je suis génial. Dans post-quantique, donc je suis voilà. dedans.
Et ça démontre une chose, c'est que les cybercriminels sont toujours aussi forts pour leur transformation numérique.
Oui.
Ils ont réussi à faire des plateformes, ils réussissent à passer au post-quantique, ils réussissent à utiliser l'IA, souvent malheureusement bien plus vite oui. que
les agents. Bah on en parlait d'un agent autonome qui un jour sera capable de...
Oui, ou des modèles d'intelligence artificielle qui sont débridés et qui les aident dans leurs activités. Donc oui, ils sont très très forts là-dessus.
Michel, sur ce
sujet. Oui, c'est un peu désagréable de se dire qu'ils y arrivent assez facilement alors que beaucoup d'entreprises ont un mal fou en fait à passer au chiffrement post-quantique. Et se dire que ben, finalement, je rejoins sur cette idée de marketing, mais il faut qu'on essaye quand même aussi de rappeler que c'est un engagement fort de cette année. C'est d'ailleurs rappelé aussi dans la directive qui a été publiée par le Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas impossible à faire et en même temps, restons bien concentrés. C'est un objectif de fond et il faut le planifier. Mmh.
Bah, les pirates profitent de leur force, qui est l'agilité.
Ouais. Aujourd'hui, pour parler justement tous les deux éditeurs, Isette pour Benoît et WatchGuard Technologies pour toi, Pascal. Voilà, le post-quantique, les entreprises, elles posent la question.
Alors moi, je suis sur les PME ETI. Ouais. Ouais, si donc, je parle de post-quantique, j'ai un visage en face de moi qui, qui s'éteint.
Il change de couleur.
Donc nous, en fait, notre rôle à nous, c'est d'évangéliser, de leur apporter l'information pour qu'ils se sensibilisent le plus rapidement possible. Mais c'est plus facile à faire pour un pirate d'utiliser juste un algorithme.
Ouais.
Enfin, nous, on est constructeur hardware. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des boîtiers qui sont vieux de 10 ans, qui sont encore dans les entreprises. Et ces boîtiers-là ne seront pas chiffrés du post-quantique aujourd'hui. C'est une question de puissance. Le pirate, il s'en fiche. Il a le temps de chiffrer sur sa machine. Donc, ils profitent de leur agilité là où ils sont.
Ouais.
Mais pour que tout le marché se mette en branle, il y a quand même un peu plus qui est nécessaire.
Ouais.
Mais il faut y aller, il n'y a pas de doute.
Donc, il y a un effet communication, mais il ne faut pas quand même laisser passer ces technologies.
Non, complètement. Nous, on doit avertir nos clients, effectivement, être à la pointe, se mettre nous-mêmes à la pointe, quand c'est possible, effectivement, logiciel ou matériel, et puis amener aux clients les éléments qui vont faire qu'ils vont comprendre et adopter eux-mêmes le post-quantique, se poser la question.
Waystone, chaque année, fait un concours là, de start-up.
Oui.
Le prochain, c'est quand d'ailleurs ?
Ça sort pour Vivatech, justement. Ah, on publiera ça le 16 juin. Oui, oui.
Et un peu de quantique dans tout ça ?
Oui, il y aura des start-up qui parlent de quantique. Aujourd'hui, le marché sur les grandes entreprises, ça y est, il démarre enfin. Mm-hmm. Aujourd'hui, on voit les premières acquisitions d'outils, on voit les premiers grands programmes qui se lancent. Avant tout, la défense a déjà sauté le pas parce qu'eux sont très exposés. La finance est dedans ces temps-ci et on voit l'industrie, en particulier ceux qui fabriquent des choses à longue durée de vie comme les trains, les automobiles, etc. Mm-hmm. Aujourd'hui mettre le moteur quantique pour que la plateforme qui sort dans 3-4 ans soit conforme parce qu'on sera dans les dates. Il faut rappeler que l'Union européenne demande à ce qu'à 2030, dans les infrastructures critiques, que tout a été migré.
Eh bien, merci. Donc, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de Vivatech. Merci, Jérôme Bilois, associé cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Michel Juvin, écosystème advisor chez LNC. Pascal Lodigal, directeur France de WatchGuard Technologies. Et Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France. Voilà ce qu'il fallait retenir un peu des quelques grosses news de cyber du moment. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver évidemment en replay, en podcast sur votre plateforme préférée, mais aussi sur le site bfmbusiness.com. À très bientôt pour une nouvelle émission Tech & Co Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.